les conférences de Radio Vassivière.
Le 7 février 2015 avait lieu les deuxièmes rencontres du réseau Zone Humide à Royères de Vassivière. Radio Vassivière était partenaire de cet événement, organisé à l'occasion de la Journée mondiale des zones humides par le Conservatoire d'espaces naturels du Limousin, le Parc naturel régional Mille Vaches en Limousin et l'établissement public territorial du bassin de la Vienne. Afin de répondre à une dégradation persistante des zones humides, le réseau de gestionnaires de ces espaces est basé sur le volontariat et s'adresse aux exploitants agricoles ou forestiers, aux collectivités territoriales ou aux particuliers. Il regroupe dans la région plus de 110 adhérents sur les bassins Adour-Garonne et Loire-Bretagne. La journée s'est organisée autour de trois tables rondes. Nous vous proposons d'écouter la deuxième d'entre elles, qui avait pour thème « Agriculture en zone humide ». Parmi les intervenants, Daniel Chaussade, maire de Montboucher, Laurent Rougier, responsable de l'exploitation agricole du lycée agricole d'Ahun, Jean-François Glay, berger au Conservatoire des espaces naturels du Limousin sur le site de la Mazure, Jean-Louis Dorlia, exploitant agricole à Ned et membre du réseau Zone Humide, Nicolas L'Héritier, chargé de mission au Conservatoire des espaces naturels du Limousin et au syndicat mixte Monts et Barrages, Johanna Corbin, exploitante agricole à la ferme de La Chaux sur la commune de Gensioux, Cédric de Guillaume, agriculteur membre de l'ADAPA, Sébastien Rivière, exploitant agricole à l'Étard en Corrèze, et Maïwenn Lefrançois, chargée de mission au Conservatoire des espaces naturels du Limousin et animatrice au réseau Zone Humide.
Voici le paysage aérien de la tourbière de la Mazure. Donc vous pouvez constater cette mosaïque de paysages, de boisements, avec donc les zones de land sèche, les zones de land humide, land tourbeuse, et un enraisinement par bosquet sur les parties les plus élevées. Nous avons eu un partenariat avec EDF dans les années 2004-2005, et donc c'est l'opportunité que l'on a pu saisir au niveau de la communauté de communes concernant la compétence gestion des milieux naturels et aménagement, environnement, tourisme, avec donc une rétrocession de la part d'EDF au profit de la communauté de communes d'une tourbière de 70 hectares, avec un partenariat avec le Conservatoire des espaces naturels, avec l'Office national des forêts sur la partie gestion. Ce partenariat perdure. On a signé donc un bail en 2005, hein, c'est ça, avec le conservatoire. Un plan de gestion a été élaboré de manière concertée et consensuelle en fonction de la multifonctionnalité du site que l'on souhaitait développer. Le site étant isolé, vous pouvez constater donc que ce site sur le plan paysager n'est pas défiguré par des lignes à haute tension, par des routes ou d'autres types d'aménagement. Donc on a un paysage, je dirais, relativement nordique par rapport à notre territoire. Voilà la partie donc du foncier. Le foncier en marron donc concerne les terrains, donc c'est pareil, on est en partenariat avec le mouvement forestier de Saint-Pierre-Bellevue et de Monteil et de Royères de Vassivière. Et la partie jaune, en jaune, donc c'est la propriété de la communauté de communes, donc la rétrocession d'EDF. Sur la partie à l'est, donc Rigole du Diable, également on a eu une démarche d'acquisition foncière, donc d'achat, sur la rive gauche de la Rigole du Diable. Et également des partenariats avec le GSF donc, sur le Monteil de la partie en marron et sur la rive droite également avec Royères. Donc vous pouvez constater que ça recouvre une partie assez importante en termes de superficie. Et donc nous arrivons à avoir un programme de gestion et d'aménagement sur l'ensemble du territoire, avec, comme vous le disiez, notre président de communauté de communes ce matin, la dernière acquisition, donc tout à fait au sud-ouest du site, le moulin de Prugnola avec son étang et le moulin y attenant. Donc l'ensemble de cet espace a été la vocation de la gestion du site, a été, je dirais, la multifonctionnalité du site avec donc le pâturage extensif avec le berger, enfin on passera, et le partenariat avec le lycée agricole d'Ain, dont on parlera tout à l'heure, et puis donc des aménagements touristiques pour faciliter la pénétration du lieu par les piétons. Et également, vous allez voir ensuite des aménagements liés à la pratique agricole concernant le pâturage extensif sur plusieurs mois. Là, on a également développé des manifestations pour faire connaître le site en termes d'animation. Là, c'est le concours de pêche à l'écrevisse, c'est le troisième, je crois, de suite, sur, une fois par an, sur donc des interventions dans le milieu pour faire connaître le site avec une partie ludique et récréative. Également, c'est un lieu de formation et d'échange par rapport à de la confrontation de points de vue sur les modalités de gestion et d'aménagement, mise en place de clôtures, mise en place de journées d'information et de formation et d'échange sur l'évolution du paysage et l'intervention sur le milieu forestier, sur les milieux humides, avec un certain nombre de partenaires financiers. Également la partie études scientifiques, donc ça c'est plus pour arriver à obtenir, je dirais, un peu plus de renseignements sur le plan scientifique sur le site. Ça concerne donc du carottage de tours pour évaluer l'évolution du paysage et du site avec donc l'Université de Limoges. Voilà un exemple de certaines espèces du site. L'artésie des marais, l'ancienne pneumonante, l'andromède à feuilles de polium, l'orchistacheté et la canneberge. Donc des espèces indicatrices que un certain nombre de congressistes d'aujourd'hui connaissent. Voilà les paysages que l'on peut observer en juin, juillet sur le site. Donc c'est des zones de tourbières actives avec les aérophores que nous avons sous les yeux. Également sur le présent sur le site donc du petit patrimoine bâti, des moulins, des biefs qui ont pu être, on va dire, sauvegardés pour faire comprendre au public également sur le sentier d'interprétation que le site n'était pas vide et a été géré par nos ancêtres sur le plan agricole avec donc la jonction avec l'actualité, donc le pâturage extensif depuis 2008, pardon, donc du cheptel de brebis limousines du lycée agricole d'Ain, un partenariat tout à fait intéressant, et puis à titre expérimental, un rucher sur le site pour essayer de, à partir de l'analyse pollinique, essayer de voir l'impact du pâturage au vin sur 4 mois sur la diversité des végétaux sur l'ensemble du site. Voilà, je vais passer la parole à mon voisin pour la partie élevage.
Et bonjour à tous. Donc pour rappeler l'origine donc de l'arrivée des brebis du lycée agricole sur le site de la Masure. En fait, ça répondait à un problème de l'exploitation agricole qui était un petit peu chargé donc au niveau du site d'Ain. Et donc, quand s'est proposé à nous la possibilité de mettre en estive une partie du troupeau au vin, mes prédécesseurs ont tout de suite validé cette solution. C'est pour ça que depuis 2008, ça sera donc la huitième année cette année, qu'il y aura 260 à 300 brebis qui montent chaque année sur le site de la Masure. Alors en général, à partir de fin mai jusqu'à la mi-septembre, donc 3 mois et demi, où on alterne en fait la montée de lots de brebis. Alors, un lot de brebis pleines sur la première partie de l'estive, qui redescend généralement à la mi-juillet. Et ensuite, on remonte un lot qui a été donc mis en lutte déjà sur le site de notre exploitation A1 et qui finit donc d'être mis en lutte donc à l'estive pour un retour aux alentours, donc comme je le disais, de la fin septembre. Voilà, donc aujourd'hui, notre partenariat dure depuis 2008. Il se déroule plutôt très bien. Et nous, ce que nous avons validé, c'est le fait que notre race, donc la limousine présente sur notre exploitation, est tout à fait adaptée pour valoriser donc, ces zones, et notamment donc, la masure, hein, avec son alternance de milieux plutôt secs et plutôt humides. Voilà, qui fait qu'on n'a pas de problème ni, je dirais, sanitaire, ni de croix, puisque depuis le début, on a de relativement bons retours, que ce soit sur les deux lots qu'on met alternativement sur le site. Voilà, je vais passer la parole au berger qui, lui, s'en occupe depuis plus longtemps que moi et qui a plus de retours d'expérience sur... La conduite du troupeau.
Voilà, donc vous, Laurent Rougier, hein, parce qu'on ne vous avait pas représenté, donc responsable de l'exploitation agricole du lycée d'Ahun. Jean-François Glé. Ah. Comment est-ce que vous voulez qu'on vous présente ? Berger ?
Ben oui, c'est ça.
Bon.
Je suis berger depuis 2008 pour le CREM, mais avant j'ai un petit parcours berger en estive, mais en montagne. Donc j'étais embauché par le CREM en 2008 pour garder un troupeau de brebis sur cette tourbière de la Masure. Et la tourbière de la Masure, enfin, je la connaissais moi, depuis 1998 parce que j'avais un projet personnel et j'ai harcelé un peu le CREM pour qu'il m'embauche moi. Parce que j'avais un petit truc là-bas. Et donc en 2008, j'ai signé avec eux et on a démarré sur une tourbière qui était en très mauvais état puisqu'elle n'avait pas été pâturée depuis très longtemps. Et si on voit là derrière la photo, je crois que c'est la première année. Et il y avait des tours à dons qui étaient pratiquement impossibles de pénétrer avec les brebis. D'ailleurs, même l'être humain ne pouvait pas traverser la tourbière, c'était pratiquement impossible. Donc la première année, ça s'est déroulé... le premier mois de la première année, c'était assez difficile pour faire pâturer des brebis. Et ça s'est amélioré quand ils ont fait des tranchées pour pouvoir que les brebis puissent pénétrer dans la tourbière.
Juste quand vous dites « ils ont fait », donc c'est le conservatoire ?
Voilà, c'est le conservatoire... espace naturel. Donc ça n'a pas été facile le premier mois, mais les brebis ont même perdu de la viande. Et après, une fois que les tranchées ont été ouvertes, elles ont pu pénétrer à l'intérieur de ce moulinier. Et donc là, on a pu faire un peu du meilleur travail. Et les brebis sont sorties à la fin très bonnes. Enfin, bonnes les premières années et les années suivantes, de mieux en mieux. Quoi. Parce que plus on avance, plus j'arrive à faire manger maintenant la Moligny, plus on arrive à rentrer dans la tourbière, et plus j'augmente la surface de pâturage. J'ai l'occasion de leur dire assez souvent que j'augmente mon pâturage. Sans augmenter la surface, j'augmente un hectare d'herbe, parce que la façon dont je fais pâturer les brebis permet d'avoir une meilleure qualité d'herbe et d'en avoir beaucoup plus. Et donc ça augmente mes surfaces sans augmenter sur le terrain. Ben voilà, c'est des aménagements que le CREN a fait pour pouvoir, parce que la tourbière qu'on avait vue sur la première photo est séparée par un ruisseau de la Masure, qui coupe la tourbière en deux. Donc pour pouvoir traverser les brebis, le CREN a fait des passerelles pour pouvoir traverser. Donc on en a fait à plusieurs endroits pour pouvoir pas avoir à passer toujours au même endroit et faire de l'érosion.
Là, il y a une autre photo.
Voilà, c'est un peu ce qui ressemblait au début, aux premières années de pâturage, quoi, de la calune qui est toute desséchée et dans le fond de la Moligny toute jaune, parce qu'elle est sèche aussi, elle n'a pas été pâturée depuis longtemps. On a l'occasion de voir des photos de l'année dernière, par exemple, on verra que la Moligny n'est plus jaune comme ça, mais qu'elle devient voilà, comme celle-ci. Là. Là, on voit beaucoup de graminées à travers la Moligny. Du fait d'être pâturée, maintenant, là, il y a une beaucoup plus grande diversité de fleurs. De fleurs et d'herbes. Enfin, moi, je ne sais pas comment ils appellent ça. Je ne connais pas trop. Je vois ce que mangent mes brebis, mais après, les noms, j'en sais rien. Alors, mais en tout cas, il y a une beaucoup plus grande diversité. Le fait, avant, il n'y avait que de la Moligny. Et entre la Moligny, comme elle était très haute, il n'y avait absolument rien, que l'eau circulait entre la Moligny. Tandis que maintenant, il y a beaucoup plus de fleurs, de graminées, et l'eau, par contre, circule beaucoup moins. Pour moi, c'est moins bien. Pour la tourbière, c'est mieux. Sur la tourbière, il y a des parties sèches et beaucoup de parties mouillées, et quelques parties sèches. Donc je fais alterner les brebis en partie sèche et en partie mouillée, qui ne pourraient pas se faire... Je vois aussi qu'on veut m'emmener, mais qui ne pourrait pas se faire si on, par exemple, on clôturait. C'est ce que j'essaie d'expliquer et de marteler depuis très longtemps, que le fait d'avoir un berger, de faire du pâturage itinérant, permet d'emmener les brebis là où elles ne voudraient pas aller, et de les faire manger du grossier, ce que j'appelle moi du grossier, de la Moligny, entre autres, pour qu'elles puissent ouvrir des terrains et que tout le parcours soit mangé de la même façon. Il n'y a pas de surpâturage et de sous-pâturage. C'est ce qui, avec un berger, c'est possible. Tandis qu'avec clôturet, c'est pas possible. C'est pas possible parce que les brebis, dès qu'elles arrivent, elles mangeront là où c'est bon. Elles finiront par racler complètement là où c'est bon et ça deviendra mauvais. Et là où c'est mauvais, elles le mangeront pas et elles le mangeront jamais. Et elles le diminueront au point de vue capacité alimentaire, de leur ventre. Quand elles mangent, plus elles mangent, plus elles ont faim. Plus elles ont faim, plus elles mangent. Donc plus elles mangent, plus elles mangent d'herbe. Donc plus elles nettoient. Et à l'inverse, si elles sont enfermées et qu'elles mangent peu, elles s'habituent à moins manger. L'estomac rétrécit et elles mangent moins. Donc elles pourraient se contenter que du sec, pas aller dans la tourbière. Et donc le fait d'avoir un berger sur place permet justement d'alterner et de pouvoir faire manger à l'endroit où d'habitude elles n'iraient pas manger. Donc c'est pour ça qu'on parle du sec, parce que ça leur ouvre l'appétit dans le sec, dans la bourdaine. On leur ouvre l'appétit dans des choses qui sont bonnes pour elles, et après on les met dans du mauvais. On leur rend plus facilement à manger, puisqu'elles ont déjà mangé du bon.
Merci.
Voilà.
On peut peut-être faire un commentaire sur cette diapositive, Aurélie, non ?
Oui, donc cette diapositive reprend les travaux qui ont été effectués depuis 2007, donc à savoir deux parcs de pâturage, quand le Jean-François, qui travaille 6 jours sur 7, n'est pas sur site, donc une journée par semaine, les brebis sont mises dans un parc fixe. Donc on a deux parcs fixes en tout pour une surface de 15 hectares. Et aussi, les parties jaunes, ce sont notamment des terrains secs, donc des landes, qui étaient, quand on est arrivé sur site, fortement, fortement boisées et envahies, qui ont été bûcheronnées de façon à ce que les brebis puissent pénétrer sur ces terrains secs. La première photo à gauche, c'est une carte qui représente le pâturage effectué par les brebis menées par Jean-François, où on s'aperçoit que, par rapport à celle de droite, les surfaces colorées sont beaucoup plus restreintes. Donc ce sont les surfaces qui ont pu être pâturées en 2008. Donc on a pu atteindre une surface d'environ 30 hectares, avec des surfaces surpâturées, et des surfaces beaucoup moins pâturées. Donc ça, c'est lié à la difficulté, voilà, de pénétrer sur la partie mouillée, et s'avérer qu'on n'avait qu'un parc fixe au début, et qu'il était trop petit. Donc rapidement, on est parti sur la création d'un deuxième parc fixe. Et donc à droite, c'est ce qui a été pâturé en 2013. Donc en vert, c'est les zones qui ont... Voilà, subi un pâturage, on va dire, de pression moyenne. Et on a pu, en 2013, atteindre une surface pâturée de 80 hectares. Aujourd'hui, c'est pâturé sur une plus grande surface, avec une pression beaucoup plus adaptée au milieu.
Est-ce qu'il y a des questions ? Des questions ? Des loups ?
Alors, pour le loup, ça sera sûrement des autres réunions, mais qui seront d'ici 3 ans.
Voilà, très bien. Merci bien, monsieur. On va poursuivre et je vais demander de venir à la table donc les intervenants suivants. On attend Johanna Corbin, on attend Cédric de Guillaume, Jean-Louis Dorlia, Nicolas L'Héritier, Sébastien Rivière et Maïwenn Lefrançois. Donc toujours au sujet d'agriculture en zone humide. Et là, en l'occurrence, on va donc parler chantier participatif.
On va vous présenter avec Jean-Louis donc les travaux qui ont été réalisés sur son exploitation dans le cadre du programme Sur son action.
Bon, Nicolas, juste donc, vous travaillez pour le conservatoire. On est bien d'accord. Alors,
je travaille à la fois au conservatoire d'espaces naturels et aussi au syndicat Monts et Barrages, qui est un maître d'ouvrage du programme.
D'accord. Et Jean-Louis Dorlia, son exploitation est à NED.
L'exploitation de Jean-Louis, elle se situe pas très loin d'ici, au sud-ouest du lac. C'est une exploitation nous, qui nous intéressait fortement, puisqu'elle se situe en fait en tête de bassin d'un ruisseau qui s'appelle le ruisseau de Planche-Mouton. Et on a de nombreuses zones humides de tête de bassin. Et donc on s'est trouvé à une réunion publique de lancement du programme où en fait Monsieur Dorlia était intéressé pour installer des abreuvoirs sur son exploitation. Donc je vais passer la parole à Jean-Louis pour qu'il vous présente son exploitation et les travaux qui ont été réalisés.
Donc j'ai une exploitation de 120 hectares. Il y a 80 hectares de zones qui ne sont jamais labourées. Et dans ces 80 hectares, il y a 30% de zones humides.
Donc là, on parle de l'adhésion, en fait. Vous avez adhéré au réseau en 2012.
Tout de suite, oui.
Suite à la réunion publique dont vient de parler Nicolas.
Oui, puis on a lancé des travaux dans la foulée. Là, on voit une partie de l'exploitation. Là, on voit le premier chantier qui a été réalisé. C'était la clôture d'un ruisseau et la création de deux abreuvoirs. Des abreuvoirs gravitaires. Donc, on a pris l'eau dans le ruisseau, on l'a ramené au ruisseau. On a fait aussi une passerelle sur le premier chantier là, qui nous permet de traverser d'un côté à l'autre du ruisseau sans passer dedans. Quoi. Et bon, on a fait les travaux le plus simplement possible. Les tuyaux étaient enterrés. On a fait les tranchées avec une rigoleuse pour enterrer les tuyaux. Donc ça a été assez vite fait. La passerelle en bois, là, c'est le syndicat Monts et Barrages qui a fourni. Tous les matériaux ont été fournis par le syndicat Monts et Barrages. Et le suivi technique du chantier aussi. Là, c'est le deuxième chantier qu'on a pu faire l'an dernier. Là, c'était un chantier qui était ambitieux parce qu'il y avait quand même une longueur de tuyau qui était très importante. On a fait une petite passerelle. On a clôturé pas mal de ruisseaux aussi. Là, en haut, là, vous pouvez voir la prise d'eau. La prise d'eau qui a été faite sur un tout petit ruisseau. Il n'y avait pas forcément beaucoup de débit, mais bon, ça fonctionne. Quoi.
Dans la durée, ça vous a pris combien de temps pour l'aménagement? Je ne sais pas, qu'est-ce qui peut répondre?
Là, on a mis une semaine. Non, mais ça paraît impressionnant comme ça, mais de façon qu'on fait les tranchées à la rigoleuse, ça va très très vite. Et dérouler les tuyaux, c'est rapide aussi. Hein. Mais les tuyaux, il y a toute la partie là où on voit la zone sèche, partie hivernage, là, il y en a toute une partie là. Entre les deux derniers bacs, là, on a longé simplement les clôtures. Là. On ne s'est pas embêté à les enterrer. On a des clôtures, on les a attachées sur le bord des clôtures, et puis ça va très bien. Puis ça, c'est un continu, donc ça ne risque pas geler l'hiver. Et là, ça nous a permis d'avoir une zone qui était sèche, sans eau, où on peut hiverner les vaches, puisqu'on a un bac là. Bon, pour les chiffres, je vais repasser Nicolas.
Donc en fait. Sur ces deux îlots et aussi un autre où les travaux sont en cours, il y a actuellement d'installer à peu près 2 km de clôture. Il y a eu une restauration de mare qui sert, que vous aviez dans la première diapositive qui présente notre présentation, qui permet de restaurer en fait un milieu aquatique pour les batraciens et aussi pour alimenter un abreuvoir. Donc cette mare, elle a été restaurée uniquement par les moyens de Jean-Louis Dorlia, donc c'est quelque chose qui lui a coûté du temps de travail, mais voilà, sans matériel particulier, enfin en tout cas avec le matériel de la ferme. Aussi par le biais de la Fédération de pêche de la Haute-Vienne, mais aussi par des travaux qui ont été faits surtout par votre fils Jean-Louis. Il y a eu 650 mètres de ripisylve entretenu. Donc là, c'est pareil, c'est en préparation de la pose des clôtures et puis c'est aussi tout à fait volontaire. Sur cette exploitation aussi, en lien avec les autres actions qui sont menées dans Source en Action. Il y avait un étang qui était vétuste et dont la digue menaçait de s'effondrer seule et d'ensabler massivement le ruisseau. Donc il y a eu un programme, une action montée avec le syndicat pour effacer cet étang. Donc il y a actuellement 6 abreuvoirs gravitaires d'installés, 3 passerelles et un passage à gué. Donc les fournitures, comme l'a dit Jean-Louis, c'est des fournitures fournies par le syndicat, financées par l'agence de l'eau Loire-Bretagne et la région Limousin. Et puis on a estimé aussi, parce qu'on a un accord avec l'agence de l'eau et la région Limousin pour financer la main d'œuvre exploitant. Donc cette main d'œuvre exploitant, elle est estimée à peu près 5 500 euros.
Il y a des... on ne dresse pas forcément un bilan là, mais il y a encore des travaux. À quel point diriez-vous que vous en êtes?
Les travaux, je pense que ça va durer encore pendant quelques années. Pour aménager une exploitation comme la nôtre, il faut peut-être pas loin d'une dizaine d'années.
Quelques questions?
Oui, bonjour. Une question à M. Bourlia. Quels sont les facteurs qui vous ont amené à aménager votre exploitation avec des abreuvoirs, des passages à gué? C'est une réflexion que vous aviez déjà depuis quelques années ou...
Non, je crois que ça a été assez rapide suite à la réunion de lancement du programme. Et puis bon, tout de suite, on a trouvé... les bêtes sont beaucoup mieux, quoi. Elles vont plus patauger dans les ruisseaux, elles vont boire, elles boivent de l'eau propre. Pour nous, tout est à gagner, quoi.
Oui, bonjour. Est-ce que vous avez des problèmes, plutôt des solutions vis-à-vis des situations climatiques par rapport au gel ou autres pour les installations?
Là, ça ne peut pas geler parce que l'eau circule en continu. Sur le premier chantier, parce que les bacs sont en série. Donc sur le premier chantier, la prise d'eau et l'arrivée d'eau est au même endroit. Là, ça gelait. Sur le deuxième, on a provoqué un tourbillon dans le bac et c'est bon, ça marche. Plus on va avancer, je crois, plus on va être performant. Il faut dire aussi bien pour Nicolas que pour nous, c'était un chantier test, c'était le premier... On était aux essais. Hein.
Toute petite question pratique. Les 650 mètres de ripisylve vont entretenus. C'est entretenu de quelle manière?
On a coupé les branches, on a arraché les embâcles qu'il y avait dans le ruisseau. Tout a été fait à la main. Nous, on en a fait une partie. La fédération de pêche en a fait une autre.
Vous disiez ce matin que le pays Monts et Barrages était labellisé, oui.
Oui.
On est aussi label pays d'art et d'histoire.
Tout à fait.
Et simplement, là, sur les solutions là, qu'on a choisies pour alimenter les abreuvoirs, c'est aussi lié à la maîtrise de l'eau passée de ce territoire, où en fait on irriguait les prés par un système de lèves. Et nous, en fait, on a juste fait reprendre cette logique-là d'acheminer l'eau par gravité, parfois aussi en s'aidant du tracé de ces anciennes lèvres pour faire l'eau plus simple et au plus efficace, puisqu'on savait que ça marchait.
Donc c'est un lien direct avec le pays d'arrêt d'histoire.
Donc oui, c'est quelque chose qui est en lien, puisqu'on se sert en fait un peu de ce qu'on connaît de la maîtrise de l'eau sur notre territoire pour le réactualiser et le moderniser un petit peu.
Le pays d'arrêt d'histoire, il faut savoir, il y en a très peu en Limousin, il y en a deux. En dehors de la ville de Limoges, il y a autour de... Vézère Ardoise, et puis Pays d'Arrêt d'Histoire, sur Monts et Barrages. On va poursuivre, merci beaucoup, merci messieurs, vous restez avec nous. On va poursuivre avec Johanna Corbin, GAEC de La Fève. Vous êtes exploitante agricole donc à la ferme de Lachaud, sur la commune de Gensioux. Et vous, Cédric, vous êtes exploitante agricole à la FRCIVAM. On va juste dire ce que c'est que la FRCIVAM.
Oui, rapidement, là, en fait, le travail que va présenter Johanna, c'est le résultat, en fait, d'un travail collectif d'un groupe d'agriculteurs qui est membre de la DAPA. Donc, c'est une association qui travaille sur l'autonomie et l'efficacité, on va dire, économique des fermes dans des systèmes durables. Et on est membre, donc, de la FRCIVAM, qui est un regroupement d'associations qui travaillent sur la valorisation de l'agriculture et du milieu rural. Donc ils peuvent travailler sur les thématiques agricoles, mais aussi des thématiques de circuits courts ou de valorisation de production, comme le chanvre en construction ou le maraîchage.
Donc la ferme de Lachaud, le GAEC de La Fève.
Donc Oui, la ferme de la Chaux, Johanna. La ferme de la Chaux, c'est une ferme qui se situe à 4 km d'ici, sur la commune juste voisine, la commune de Gensiou, et qui a été achetée par la communauté de communes, donc la communauté de communes voisine de celle d'ici aussi dont on a parlé ce matin, puisque là, c'est la communauté de communes de Sud-Grand-Creux. Donc, on s'est installé en 2008 avec un projet agro-environnemental, un projet de recherche en écologie donc, qui est porté par l'association Le Champ des Possibles, et dont Fred vous a fait un exposé ce matin, et des actions en lien avec l'accueil et la formation, mais dont je ne développerai pas les choses ici. Donc, quand on s'est installé, moi, je n'étais pas du milieu, et on a passé quoi, un an et demi, avant de venir ici, à se renseigner, à s'immerger en fait, dans les pratiques locales, et à s'informer de comment on pouvait faire de l'agriculture ici, avec nous, en arrière-pensée, l'idée de travailler sur la restauration et la gestion des milieux naturels. Donc, dans nos premières années, on s'est basé sur, sur ce qu'on avait pu percevoir des conseils des anciens, et donc sur un système qui est essentiellement basé sur l'utilisation des prairies et du stock, nécessaire notamment pour passer 6 mois de bergerie. Les hivers en Creuse et sur le plateau de Millevaches sont réputés pour être longs et rigoureux. On a mal à neige aujourd'hui. Donc voilà, qui dit 6 mois de bergerie pour les bêtes dit création de beaucoup de stock. Et dans les autres 6 mois de l'année, donc un pâturage sur les prairies, et un pâturage plus ou moins important selon les exploitations dans les zones de landes et de tourbières. Assez vite, on a fait évoluer ce système-là en se disant mais en fait, ce qu'il faut qu'on arrive à faire, c'est à mettre la brebis au centre de notre système et non plus le tracteur. Et ça a nécessité un certain nombre de modifications de la ferme. Il y a eu un gros travail réalisé par le conservatoire qui, après avoir fait un diagnostic écologique, un plan de gestion, a mis en œuvre un certain nombre de moyens pour, d'une part, défricher certains endroits et, d'une autre part, mettre en place des clôtures fixes sur cette ferme qui était en relativement mauvais état quand on est arrivé et qui était une vraie passoire en termes de clôtures. Donc les clôtures, elles nous ont permis vraiment d'emmener les bêtes dans des endroits où on allait peu au démarrage. Et un peu plus tardivement, puisque j'ai rejoint l'histoire de l'ADAPA assez tard, on a rencontré un groupe, alors ADAPA c'est l'association pour le développement d'une agriculture plus autonome, on a rencontré un groupe d'agriculteurs qui se préoccupaient vraiment de la question de comment valoriser au mieux les milieux de sa ferme. Et ces rencontres d'agriculteurs sur le terrain, elles nous ont fait vraiment beaucoup évoluer la perception déjà de notre ferme et de ce qu'on pouvait en faire. Du coup, on est passé de nos 6 mois de bergerie initiaux à 3 mois de bergerie, simplement, autour de la période d'agnolage, en fait, en trouvant d'autres usages au milieu dont on disposait. Donc il y a une partie à la sortie d'hivernage de pâturage sur les prairies. Ensuite, il y a une grosse partie de pâturage estival que l'on a concentré sur les tourbières, grâce notamment à la pose de clôtures fixes. Du pâturage en intersaison encore sur les prairies. Et la grosse nouveauté pour nous, ça a été de dissocier vraiment l'usage des landes et des tourbières avec l'usage des milieux secs, les landes en l'occurrence, en période hivernale, automnale et hivernale. Ici, on voit les brebis qui sont en train de manger des ligneux, donc déjeuner, à d'autres moments des bruyères, des calunes.
Et voilà, c'est cet hiver.
Elles étaient dehors et elles s'alimentent dehors avec une toute petite complémentation en foin de qualité, enfin, en l'occurrence un petit peu de foin de deuxième coupe que l'on fait en petites bottes pour leur en donner vraiment de façon comme du sel sur un... Donc voilà.
Les brebis sont capables de manger plein d'autres choses
que de l'herbe, notamment des ligneux, et c'est ça qu'on a découvert, et c'est ça qui nous permet aujourd'hui de faire un cycle beaucoup plus long en extérieur, avec l'idée que la ressource pâturée sur pied est une ressource beaucoup plus économe que la ressource qu'on stocke. Pour faire un zoom sur les zones humides, en rouge ici, on voit les clôtures fixes posées par le conservatoire. Et en vert, on a posé des clôtures mobiles qui nous permet donc dans cette zone, là au nord, de tourbière, de contenir les brebis dans des petits parcs. Donc ça, c'est des parcs qui nous durent entre 5 et 7 jours, selon les années, en période estivale. Au début, on a plutôt réalisé 2 passages dans l'année sur ces zones-là, ce qui nous a permis vraiment d'ouvrir les milieux. Pour reprendre un peu ce qui a été illustré par le berger, quand on est arrivé, on a des couradons plutôt hauts, c'est des parcelles qui ont été à l'abandon assez souvent. sur le plateau. Et donc, deux passages dans l'année, ça nous a permis de réouvrir beaucoup les milieux. Un peu plus récemment, en fait, on a utilisé non seulement ces espaces-là pour faire un passage, mais un passage avec des mersuités, donc des brebis qui ont des agneaux, donc qui sont en fort besoin alimentaire. La première année, on n'était pas très rassurés de voir comment est-ce que les agneaux allaient s'en sortir aussi là-dessus, mais en fait, les agneaux, ils s'en sortent très bien, et ils profitent, et ils progressent très très bien, aussi bien que c'est sur prairie. Donc aujourd'hui, c'est ce qu'on réalise, plutôt un passage, toujours serré, avec des mersuités. Donc ce passage, il a lieu entre juin et fin août, et ça nous conduit à modifier beaucoup la structure du milieu, et cette ouverture, elle conduit à faire de la diversification de la ressource, qui a été dit aussi ce matin. Ce que ça nous permet en plus de faire aujourd'hui, c'est que ces milieux-là, on les utilise de façon complémentaire aux landes, donc en période hivernale, puisqu'on réouvre tout le parc, les bêtes, elles sont essentiellement dans les landes qui sont là, mais elles ont aussi accès à ces zones humides. Et du fait qu'elles aient été pâturées en amont, en fait là on voit laisser les brebis il y a quelques semaines, hein, donc la Molini, elle a jauni, mais en fait, du fait qu'elles aient pâturé en amont, il y a des ouvertures dans les milieux, elles vont continuer à trouver quelques petites graminées qui sont protégées un peu par cette végétation, même si celles-là fanent, elles vont continuer à trouver de la ressource. Donc ça, c'est vraiment le fait de consommer des ligneux, et le fait d'aller dans tous ces milieux-là, de les structurer différemment, c'est ce qui nous a permis vraiment de rallonger la période de pâturage. Donc les corollaires à ça, c'est que globalement sur la ferme, c'est une centaine d'hectares, il y a vraiment une recherche de minimiser les intrants, qu'ils soient chimiques ou énergétiques. Donc chimiques, que ce soit, nous on traite relativement peu les bêtes, il n'y a pas d'apport chimique sur les terres. On diminue les intrants chimiques par la minimisation de la mécanisation. On sécurise un système économe avec la création de plusieurs types de milieux qui apportent des ressources alimentaires à plusieurs périodes de l'année. On produit des animaux de qualité avec des agneaux d'herbe, essentiellement produits sur de la ressource, voilà, qui mangent eux-mêmes dehors sur place. Et on se sent vraiment un point de rencontre entre l'agriculture, l'écologie, l'économie, les paysages et la biodiversité. Voilà, je vous remercie.
Est-ce que depuis que vous êtes arrivé donc à ces conclusions et surtout à installer tel que vous le voulez votre exploitation, vous avez eu éventuellement des visiteurs qui viennent voir comment vous avez fait et prendre des conseils?
Ouais, alors là on est au début des moments où on peut communiquer là-dessus parce que ça se met pas en place du jour au lendemain.
On l'a compris.
Donc, le premier hiver, pareil, on a mis les bêtes gestantes sur, donc ça c'était en 2013, il n'y a pas longtemps, sur les landes, enfin dehors, les laisser dehors, ben, on se demandait est-ce que les agneaux derrière, ça va marcher. Maintenant qu'on commence à avoir un peu de recul, on commence à pouvoir en parler. Donc on est là aujourd'hui pour ça. Après, ça n'empêche que sur la ferme, depuis le début, on accueille des stages en écologie, master, notamment encadré par Fred, et sur les thématiques agriculture et biodiversité. On accueille aussi des scolaires en sortie découverte. Et on souhaite que ce lieu-là soit un lieu d'échange, de formation. Les rencontres entre agriculteurs, c'est quelque chose qui nous enrichit, qui enrichit les autres. Et, enfin, voilà.
Donc, en devenir. Et en tout cas, vous allez de plus en plus faire ce type de rencontres et ouvrir la ferme. Alors, Cédric de Guillaume.
Oui, simplement pour compléter, donc moi, je suis agriculteur et je fais partie de ce groupe d'éleveurs qu'est la DAPA. Voilà, donc moi, j'ai une ferme aussi qui est essentiellement constituée plutôt de landes à calunes sur lequel j'ai fait le même travail en fait, d'adaptation des milieux à ma production ovine. En fait, ce qui est important, c'est que dans ce travail collectif, on a découvert en fait, la malléabilité des milieux. C'est-à-dire que ces milieux, ils ont une forme voilà, qui paraît donnée parce qu'ils sont en tel ou tel état quand on va commencer à pâturer. Mais en fait, on a vraiment la possibilité de donner une forme particulière. Là, on le voit avec l'exemple des tourbières, comme l'a présenté le lycédain, ou par un pâturage assez appuyé pendant un certain nombre d'années, ou un pâturage de printemps, on va arriver à fragmenter en fait, la Molini et installer une diversité de ressources qui sera après potentiellement utilisable par des bêtes à fort besoin. C'est exactement la même logique sur les landes à calune, où on peut choisir une langue à calune ou de la rétablir, ou de la faire vieillir pour avoir une ressource assez importante qui sera utilisée en période hivernale, même quand il y a de la neige, et ainsi de suite, sur le genêt, sur la gestion des fougères, l'installation de prairies sous les fougères, etc. Et tout ce travail-là, donc là, qu'on a fait depuis 4 ans, notamment avec l'aide de Scopella, qui est une structure de conseil, on va dire, sur la gestion pastorale, commence à être suffisamment aboutie pour qu'on rentre dans une phase de communication. Donc on est en train d'établir un certain nombre de documents qui permettent de faire écho aux expériences qu'on a eues. Vous verrez sur une des tables, j'ai mis quelques documents donc de la DAPA, et notamment une fiche sur les calunes qui explique les différents usages qu'on peut avoir des landes à calunes, tant pour du pâturage hivernal, avec des bovins là, dans cet exemple-là, tant comme surface qui permettent de réguler le pâturage sur les prairies les plus productives au printemps. Et on va dans ce sens aussi produire une fiche sur les fonds humides, une autre sur les pelouses, une autre sur l'agneau de report, parce qu'en fait ce type de production nous amène aussi à modifier un petit peu le produit fini, c'est-à-dire qu'on ne fait pas forcément des agneaux rapidement, on les fait plus lentement. Et par exemple, une partie des agneaux qui ne vont pas être faits dans le cycle productif, qui est assez court dans nos zones géographiques, on va les reporter sur le printemps suivant et on va faire un agneau en 16 mois, 18 mois, qui est de tout aussi bonne qualité et qui nous permet de temporiser en fait, le temps de finition. Donc voilà, tout ce travail collectif a été vraiment très riche, très dense. Et voilà, donc aujourd'hui, on est là pour le communiquer, pour le présenter.
Combien de producteurs ?
Là, on est vraiment 5 producteurs qui avons vraiment affirmé cette démarche-là sur nos fermes. Et voilà, après, ces systèmes-là sont adaptables, quelles que soient les structures d'exploitation. C'est pas forcément des fermes qui peuvent être très herbagères, mais qui ont simplement une surface, de 10 hectares ou 15 hectares de landes ou de tourbières, peuvent trouver, aménager leur système pour valoriser au mieux ces zones-là. Qu'elles ne soient pas uniquement des zones d'usage ponctuel, quoi. C'est une vraie ressource qui peut se construire.
Est-ce qu'il y a des questions ?
Laurent Tessandier, je suis aussi à la FRCIVAM, je ne suis pas à la DAPA, mais c'est un complément. Je voulais insister sur un point, c'est que le coupler l'aménagement des zones humides, les zones en défense, etc., coupler ça avec une organisation du pâturage très tournant, apporte énormément. Il n'y a pas seulement la partie protection de l'eau, mais l'amélioration de la partie productive. Enfin, ce que disait Cédric, mais en plus général encore, l'amélioration de la partie productive améliore aussi la partie biodiversité. C'est les deux ensemble. En même temps, une partie des agriculteurs, alors l'ADAPA, vous êtes combien ? Vous êtes 60 sur le Limousin. L'apport majeur, c'est une réflexion sur comment améliorer la pousse de l'herbe en améliorant la rotation du pâturage. Je ne rentre pas dans le détail, mais c'est de faire pâturer des zones plus petites, mais sur des jours, un nombre de jours plus court et en tournant davantage. À ce moment-là, on optimise la pousse de l'herbe, mais en général et en particulier sur les zones humides. Voilà,
Oui, c'est pour compléter. L'ADAPA a énormément travaillé sur le pâturage tournant dans les années 90. Aujourd'hui, c'est une technique qui est largement diffusée. Et c'est vrai qu'on a un petit peu, on a l'héritage de ce savoir-faire du pâturage en paddock, du pâturage tournant. Et c'est vrai que son adaptation à ce type de milieu semi-naturel permet de travailler sans berger. Enfin voilà, de faire un travail, disons, qui va s'approcher de la qualité qu'un travail que fait un berger habituellement. Voilà. Mais ces deux techniques. Non, mais voilà, qu'il y ait des bergers, c'est, voilà, la possibilité d'avoir un berger, c'est ce qui peut se faire de mieux sur ça, sur une zone, ça je le reconnais absolument. Mais voilà, le pâturage tournant nous permet de gérer ces zones-là.
Ok, juste pour finir, donc c'est les apports du réseau agriculture durable, pour citer ce mot-là, et qui aboutit au programme HERB sur tout le Limousin.
Oui, il y a quelques, d'ailleurs, comptes rendus hein, de journées d'échange que le conservatoire a organisé avec la DAPA, qui sont dans la pochette qu'on vous a donnée, voilà, dans les Journées mondiales 2014. Parce que l'idée aussi, c'est, voilà, c'est des, quand il y a des organismes ou des exploitants qui ont des savoir-faire, c'est de pouvoir en faire bénéficier les membres du réseau Zone Humide. C'est intéressant pour tout le monde.
Juste pour ouvrir le débat, enfin, moi je crois qu'on est en ce moment sur des grosses questions de société sur c'est quoi l'agriculture de demain, avec des projets qui se mettent en place pas très très loin d'ici. Voilà, je renvoie la question à la salle sur quelle agriculture on veut. Je crois que c'est une question citoyenne et c'est le moment de réagir.
Merci. Donc en fait, vous êtes les derniers intervenants pour cette première table ronde de l'après-midi sur l'agriculture en zone humide. Sébastien Rivière, donc exploitant en Corrèze à l'État, d'Ilesta, et membre du réseau zone humide. Et Maïwenn Lefrançois, donc vous êtes chargée de mission au Conservatoire des espaces naturels du Limousin.
Oui, bonjour, Maïwenn Lefrançois. Donc, je travaille au Conservatoire d'espaces naturels du Limousin. Je suis en partie animatrice du réseau Zone Humide avec mes autres collègues. Et ce qui m'amène ici, à côté de Sébastien, c'est parce que je l'ai accompagné dans la mise en place d'un projet d'installation de système de franchissement et de système d'abreuvement, de mise en défense de cours d'eau sur une partie de son exploitation. Et tout ça dans le cadre de son adhésion au réseau Zone Humide.
Alors, c'est chantier participatif, hein.
Oui, oui, mais c'est parce que, en fait, donc oui, effectivement, on a, dans ce cadre-là, on avait réalisé un chantier participatif sur l'un de ces aménagements en particulier, parce que c'est un aménagement qui était assez nouveau pour le secteur, c'est-à-dire un système de franchissement avec une arche en PEHD, en polyéthylène à haute densité, et surmontée d'un remblai qui permet de la traverser du bétail et d'un véhicule, enfin, du tracteur en l'occurrence, sur un cours d'eau de faible largeur. Je vais juste rapidement passer la parole à Sébastien pour qu'il vous présente rapidement, parce que je crois qu'on n'a plus beaucoup de temps, son exploitation pour un peu situer le contexte et puis un petit peu voilà, savoir d'où est venue l'adhésion au réseau Zone Humide et qu'est-ce qui l'a amené à réaliser ce genre d'aménagement.
Donc, Sébastien Rivière, bonjour à tous. Donc, je vais vous présenter l'exploitation. Donc, on a dit c'est à l'Estar. Système de production, on est en viande bovine de Limousine. On a 120 mères, une surface d'environ 280 hectares, dont 70 vraiment en zone humide et jusqu'à 140 en zone tourbe, où on ne peut pas trop pratiquer un tracteur, on va dire. Le projet qu'on a eu avec Maïwen et par rapport à la mesure 216, c'était d'essayer de nous faciliter la vie, de pouvoir traverser les cours d'eau et que les bêtes puissent aller boire sans écraser toutes les berges. Parce qu'il y a des endroits où en 10 ans, il y avait 20 mètres de talus qui étaient tombés, et que bon, ça ensablait le ruisseau, et puis bon, c'est pas très, entre guillemets, écolo, quoi, on va dire. Voilà. Donc, on a adhéré, c'est mon père qui a adhéré en 2008, au réseau Zone Humide, parce que, voilà, dans une démarche de vouloir bien faire, d'essayer de garder la nature comme elle est. Donc, il y a eu un plan et un diagnostic pour voir les zones, si elles étaient bonnes et tout ça. Donc, après, en 2012, donc, il y a eu les MAET qui ont été, on a demandé, c'est le conservatoire qui a fait les démarches et qui nous a fait le diagnostic. Voilà, et après, donc, le premier chantier donc, qu'on a fait participatif, c'est les photos qu'il y a derrière. Donc, c'est un passage à gué sur Pradine.
Donc là, c'est le 31 mai, on le voit, c'est marqué, voilà, 2012, c'est chantier c'est participatif. Le type de participation, c'est votre entourage, vous avez lancé un appel.
Ça a été le réseau là, qui a lancé un appel. Donc on a fait passer aux agriculteurs autour. Et puis, je ne sais plus qu'est-ce qu'il y avait. Il y avait Natura 2000, il y avait... Pas Natura 2000, le parc, les techniciens de rivière, oui. Puis des gens des locaux aussi autour. Et puis, on a voulu le faire avec le conservatoire pour surtout pas faire de bêtises, quoi. Savoir comment fallait faire quelque chose de comme il faut. Donc là, sur les premières photos en haut, on voit qu'on a décaissé la mini-pelle. Après, on a mis des cailloux pour tenir en bas avec des planches pour pas que les cailloux s'en vont. Du géotextile. On a recouvert de gros cailloux, après deux plus petits par-dessus. Donc tassé, refait un peu de clôture pour que les bêtes soient bien amenées à passer qu'à cet endroit-là au lieu de descendre partout dans le ruisseau et d'en écraser de plus en plus. Donc depuis qu'on l'a fait, ça marche très très bien. Les vaches passent toujours à cet endroit-là, on les a habituées. Et nous on peut traverser, sinon il fallait faire 500 mètres en tracteur pour passer par la route, un autre chemin pour aller de l'autre côté. Alors que les vaches y allaient en 10 mètres. Quoi. Et donc après, on va vous parler un peu de l'arche PEHD. Voilà, c'était un test, oui, de ce qu'on pouvait faire pour faire passer les vaches. Donc après, il y a eu les mesures 216 et c'est là où on a fait notre gros projet qui a été fait en 2014 et qui est en train de se terminer. Donc voilà, ça c'est autour de l'Estar. Donc on est pas mal de zones humides et de ruisseaux autour de chez nous.
Je vais juste vous décrire un petit peu la carte puisque c'est moi qui l'ai faite, donc ce sera peut-être plus simple. là, vous avez vraiment l'ensemble d'îlots sur lequel il y a eu le projet de mesure 216. Donc, la mesure 216, c'est... on en a déjà parlé ce matin, Erwan en a parlé. C'est une mesure qui a permis d'avoir une subvention au GAEC Rivière, dont Sébastien est le représentant là, pour réaliser des systèmes de franchissement, d'abreuvement et de mise en défend pour préserver les berges du cours d'eau. Et l'objectif, c'est bien, de, comme disait Sébastien, faciliter le travail, avoir des systèmes bien adaptés pour le pâturage, pour l'abreuvement des bêtes, tout ça, vraiment pour l'exploitation, et tout en préservant les cours d'eau et les zones humides qui sont associées. Donc là, vous avez vraiment l'ensemble d'îlots sur lesquels tous ces petits aménagements ont été réalisés. Le contour des îlots, donc c'est les îlots déclarés à la PAC, hein, sont en blanc. En pointillé bleu ciel, et ici en plein, vous avez le ruisseau du Galingar. Le ruisseau du Galingar qui passe ici, deux affluents, un en haut, un en bas. Et sur le pourtour de ces cours d'eau, vous avez les zones humides en bleu ciel aussi autour. Et enfin, tous les aménagements. Donc on voit qu'il y a un abreuvoir gravitaire là-haut en rond. Les ronds bleus sont des abreuvoirs gravitaires. Donc il y en a un en haut, il y en a trois en bas. Associés à... Donc on en parlait tout à l'heure, on va en parler un peu plus en détail... les arches PEHD avec surmontées d'un remblai, et puis les octogones, pentagones plutôt, jaunes, ce sont les passages à gué. Il y en a deux en haut, un en bas, et enfin les deux passerelles en bois. Donc ça fait un projet assez important, mais en tout cas ça nous permet d'avoir l'assurance que là, une fois que ce sera terminé, tout cet ensemble d'îlots et les cours d'eau qui sont associés là seront préservés du piétinement, et le GAEC aura des parcs de pâturage bien fonctionnels avec des bons systèmes de franchissement, des bons systèmes d'abreuvement.
Il y a une grosse partie qui a été faite. Il nous reste un peu de clôture et après, bon, c'est les abreuvoirs qui restent à finir. L'emplacement est fait, il suffit de faire un peu de... passer les abreuvoirs fixes. Donc c'est des buses en béton de 1 mètre coupé en deux, donc ça fait 50 de haut, donc qui sont scellés au sol avec un peu de gravillon autour pour pas que les bêtes les écrasent. Voilà. Et après les passerelles, bon, il y en a une qui est entamée qui n'est pas finie, la deuxième est pas tout à fait finie. Et bon, vu le temps qu'il fait chez nous en ce moment, on n'a pas trop facile pour y aller, pour y accéder, parce que le problème de tous ces endroits, c'est que c'est pour y accéder plus tard. Mais bon, aujourd'hui, c'est très compliqué d'y aller. Même début d'automne, là, ça a été compliqué. Ou alors, il faut porter les cailloux avec des seaux à la main. C'est bon, pas facile. Donc, bon, on fait petit à petit et ça va se terminer sans tarder.
Voilà. Toujours sur le principe des ateliers participatifs, ou est-ce que vous finissez maintenant?
Non, mais donc, il y a eu juste... une fois qu'on a eu fait le premier chantier participatif des passages à gué, on avait compris comment il fallait faire, donc ça, on s'est débrouillé. Il y a juste eu pour l'arche PEHD, parce que c'était vraiment nouveau, où là, on a demandé l'aide du réseau. Vous voyez, ça nous a un coût de 9000 euros. Il y a une aide de 75% qui va être demandée, parce que les travaux doivent être finis avant fin avril. Donc à ce moment-là, quand on aura fini les travaux, on va demander la subvention. Donc, par contre, ce qu'il faut bien se dire, c'est si quelqu'un veut le faire, c'est très intéressant, c'est très bien. Mais par contre, soit on fait vite les travaux et on récupère les sous, sinon ça fait la trésorerie, c'est un peu compliqué, quoi, d'avancer 9000 euros tout de suite.
Donc le conseil, c'est de faire les travaux
rapidement.
Rapidement. Sur combien? Un an? Deux ans?
Ah non, parce que là, nous, on a eu les accords au mois de... on a attaqué les premiers travaux au mois de mai jusqu'à maintenant.
Donc moins d'un an.
Voilà, il faut faire sur moins d'un an. Après, ça dépend des trésoreries et des exploitations. Et voilà. Ou petit à petit, au lieu de faire un gros projet... qu'on se soit lancé à fond, faire ça sur plusieurs années, quoi. Mais bon, nous, on n'a pas voulu faire d'emprunt court terme parce qu'on s'est dit on va le faire vite et puis on s'est fait un peu dépasser par les événements. Voilà. On est le banquier est compréhensible, il y a un découvert plus important pour l'instant et puis voilà, il attend et nous aussi. Donc ben là, c'est cette année, donc la mise en place de l'arche PEHD. Donc pour vous résumer, l'arche, au départ, c'est un gros tuyau PEHD qu'on a coupé à la tronçonneuse. Donc après, on a installé des planches dessous pour qu'elles puissent reposer sur le fond du lit du ruisseau. Après, bon, on l'a installé, faut pas faire ça tout seul, quoi. Faut bien être 3 ou 4 quand même, ça pèse un peu. On avait décaissé un peu les abords pour qu'elle rentre bien, tout ça. Donc après, bon, on a commencé à mettre des gros cailloux sur le fond pour bien la tenir. Et puis après, bon, donc dans le projet, on avait commandé de la pierre cassée qu'on voit qu'on est en train de mettre. Donc pour la rendre bien solide, qu'elle s'écarte pas, que ça puisse supporter du poids. Puis on a recouvert de encore 20 cm de gros cailloux, mis des piquets à chaque bout avec des traverses pour tenir les cailloux qui ne descendent pas dans le ruisseau. Et donc voilà, après à quoi ça ressemble, c'est la dernière photo en bas. Et donc sur ce projet-là, après voilà, la photo c'était pas fait. Il y a une clôture électrique de chaque côté du ruisseau qui descend. L'arche fait 6 mètres de long, donc on l'a fait de 4 mètres le passage. Donc il nous en reste un autre morceau de 4 mètres. Et deux morceaux de 2 mètres, donc avec une buse achetée, on peut faire 3 passages. Donc on voit là, c'est l'arche qu'on a fait, c'est celle qui est en noir la plus haute. Donc en haut, il y a un abreuvoir. Donc pour l'instant, bon, on a fait juste de la clôture électrique cette année en provisoire avant de faire en clôture permanente. Donc les vaches, ça leur faisait un peu loin pour monter manger. Donc on va boire, pardon. Donc on va refaire une un peu plus haut sur le même ruisseau, pour qu'elles puissent traverser pour aller boire facilement, et parce qu'on fait pas mal de pâturage tournant nous aussi, donc c'est un inconvénient ça aussi. Donc vu qu'on a le matériel, on va le faire dès qu'on pourra l'année prochaine, quoi. Voilà. Donc après c'est un projet qui, moi je trouve que c'est pas mal les arches PEHD, parce que bon, on descend pas dans le ruisseau quand on va passer en tracteur, bon, faut un abreuvoir après à côté, mais c'est les vaches piétinent pas les ruisseaux, c'est beaucoup mieux, quoi. Et c'est quand même assez simple à faire une fois qu'on a vu comment ça se passait.
Et le conseil, donc, c'est adhérer au réseau zone humide.
S'ils viennent nous faire voir une fois, ou oui, des documents maintenant, mais bon, s'ils viennent vous expliquer, c'est pas mal.
Très bien.
Il y en a un à côté de moi qui connaît très bien.
Nicolas, vous êtes bien entouré, là.
Ah oui, oui.
Mais ouais, je crois que vous voulez, oui. Comme vous disiez tout de suite, dans ce cas-là, il faut adhérer au réseau. En l'occurrence, pour Sébastien, c'est pas fou, puisque la mesure de sans cesse dont il a bénéficié lui a permis d'avoir, enfin en tout cas le GAEC, lui a permis d'avoir une subvention de l'Agence de l'eau à Dour-Garonne et de l'Europe à hauteur de 75%. Mais la condition d'éligibilité pour pouvoir bénéficier de cette mesure, c'était d'adhérer au réseau zone humide. Donc effectivement, c'est pas faux. Et l'adhésion est gratuite, voilà. Quand même.
Et Juan est là et il prend toutes les décisions dès aujourd'hui.
Non, mais ça, c'est un critère d'éligibilité de l'agence de l'eau à Dour-Garonne. Sur l'agence de l'eau Loire-Bretagne, il faut que l'exploitant soit inclus dans un territoire d'action, donc un contrat territorial ou un contrat de rivière. En gros, voilà, il faut qu'il y ait une dynamique qui va en faveur d'une amélioration des milieux aquatiques. Mais c'est vrai que pour le côté à Dour-Garonne, le fait d'être membre d'un réseau de gestionnaires de milieux humides, c'est un critère d'éligibilité. Mais c'est intéressant pour nous, que forcément ça nous donne des outils financiers. Et puis surtout, pour le but, hein, c'est de pouvoir faire en sorte que l'on montre ce qui peut se faire, ce qui s'est fait avec le GAEC Rivière à l'Estar. Je pense que ça peut se faire ailleurs sur la commune de l'Estar, ailleurs sur Pradine, ailleurs à Chaumeil, et ainsi de suite. Voilà, mais sur mon zébarrage, c'est Loire-Bretagne, et voilà, c'est le programme. Ben là, c'est encore mieux, parce qu'il y a le choix entre des programmes portés par le syndicat Mon Zébarrage, ou alors des programmes, des demandes de subventions dites individuelles que chaque exploitant demande. Donc voilà, il y a même des territoires où c'est intéressant, parce qu'il y a à la fois des projets individuels et des projets dits collectifs, portés par une collectivité.
Une dernière question ?
La question que je me posais, en fait, j'en avais deux, mais bon, si on m'en répond qu'à une, je m'en contenterai. Par rapport au fait qu'on mette en place des abreuvoirs et que les bêtes ne rentrent pas directement dans le cours d'eau, on parlait aussi peut-être de l'aspect sanitaire, qualité de l'eau, puisque si en amont, on a des vaches qui font en fait leur excrément et qui à l'aval il y a d'autres vaches qui s'abreuvent, je pense probablement qu'il y a un problème. Mais est-ce que tout compte fait, ces problèmes-là, vous ne les aviez pas constatés? Et l'autre question que je me posais, entre clôture électrique ou clôture fixe, est-ce qu'en mettant une clôture fixe, on est amené aussi après à devoir plus difficilement enlever ce qu'on appelle la broussaille ou des choses comme ça?
Donc nous, pour la première question, on n'a jamais eu de soucis parce que l'eau est courte et souvent les vaches, quand elles boivent, c'est à ce moment-là où elles vont faire leur excrément. Et bon, il n'y a souvent pas de troupeau plus loin. Et puis nous, on est en tête de bassin, oui, voilà, il y a ça. Donc, c'est les voisins plus bas qui vont avoir des soucis. Donc voilà, oui, pour le coup, ça sera réglé. Oui, la clôture électrique, voilà. Fixe ou électrique, donc nous, on est passé sur la clôture électrique permanente. Parce que c'est beaucoup moins de coûts pour la faire. Au lieu de mettre un piquet tous les 2 mètres, c'est tous les 10 mètres. Il n'y a pas le barbelé. C'est, bon, c'est une question de simplicité. Et après, on a acheté un broyeur sous clôture en cuma pour pouvoir nettoyer. Voilà. Il y a eu un tout. Nous, j'ai la chance qu'avec la cuma, on a pu faire ça. Et que bon, on puisse nettoyer. Sinon, oui, après, c'est un souci. Le truc qu'on faisait des fois, toutes les 3-4 ans, on arrivait à passer un coup de rigoleuse dans les ruisseaux, on se rend compte que maintenant, on ne le fait plus, parce que le cours d'eau, vu que les vaches ne descendent plus dans le cours d'eau, il n'y a plus la molinie qui s'écrase, voilà, le ruisseau reprend son cours d'eau droit, et il n'y a plus de soucis à ce niveau-là. Donc c'est un avantage dans tous les sens. Voilà.
Merci beaucoup.
C'était une table ronde autour du thème « Agriculture en zone humide ». Enregistrée à l'occasion des deuxièmes rencontres du réseau des zones humides, le 7 février 2015 à Royères de Vassivière. Retrouvez toutes les tables rondes de ces rencontres sur notre site www.radiovassivière.com, rubrique conférences. Retrouvez également toutes les informations sur le réseau zone humide sur le site du Conservatoire d'espaces naturels du Limousin, www.conservatoirelimousin.com.